Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire qu'une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir.
C'était pas un poète inspiré en disant je flotte sur les nuages. C'est tout de même pas un surréaliste, c'est autre chose, Boris.
Est-ce que c'est un personnage gay?
Oui, il était merveilleusement. Gentil n'était pas toujours gay, hein. Enfin, c'est une chose qui n'existe pas. C'était quelqu'un de grave. C'était pas un écrivain avec d'abord un grand T écrivain, ni il cherchait à être posthume. Il écrivait pour écrire parce que ça lui faisait plaisir. Et l'œuvre devient posthume, il n'a jamais pensé à ça. Pour lui, écrire, c'était un plaisir, c'était un besoin et une envie. Et de raconter des histoires, surtout, d'inventer des choses et de partir du quotidien. C'était pas la littérature. Il a arrêté d'écrire parce que finalement, il s'est dit, j'ai 200, 250 lecteurs amis fidèles, mais personne d'autre lisait. Il était connu pour tout à fait autre chose. Ça, c'est maintenant ça, on le sait, on l'a écrit, on le sait partout. Mais ses romans n'étaient pas appréciés. On disait, mais qu'est-ce que c'est que ce farfelu?
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi, je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des pierres à bras, dès qu'ils s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat.
Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Écrivain et musicien, auteur de L'écume des jours, Boris Vian est une figure mythique de la littérature française. Né en 1920, il grandit dans le confort d'une villa avec gardien, jardinier et professeur à domicile. La famille Vian est aisée, grâce à la bronzerie d'art du côté du père et à un héritage industriel du côté de la mère. Mais la crise boursière de 1929 va les obliger à réduire leur train de vie. Ils sont contraints de louer leur maison et de s'installer dans celle du gardien. Peu importe, ils sont heureux. À 12 ans cependant, un malheur arrive. Boris tombe gravement malade, il est atteint d'un rhumatisme cardiaque. Il suit malgré tout des études scientifiques au lycée Condorcet et sort diplômé de l'école centrale en 1942. C'est un élève brillant, mais qui s'ennuie à l'école, comme il s'ennuiera plus tard dans son métier d'ingénieur. En 1940, Boris Vian rencontre Michel Léglise, sa future femme, avec qui il partage la passion du jazz, du cinéma et de la littérature. Le couple fréquente, entre autres artistes, Miles Davis et Albert Camus. Il hante les soirées zazou dans les cafés et les caves du Quartier Latin. En 1944, un drame frappe la famille Vian. Paul Vian, le père de Boris, est assassiné chez lui par deux intrus. Le crime ne sera jamais élucidé.
Encore heureux, encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Vers Coquin et le Plancton, le premier roman de Boris Vian, est publié en 1945 chez Gallimard. Le manuscrit a séduit Raymond Queneau, alors secrétaire général de la célèbre maison d'édition. Suivront L'écume des jours et L'automne à Pékin. L'écume des jours n'aura aucun succès du vivant de son auteur. Depuis, bien sûr, le roman est devenu culte. Boris Vian y dépeint un amour tragique, celui de Colin et Chloé. Chloé est atteinte d'une étrange maladie. Un nénuphar lui pousse dans la poitrine, l'empêchant de respirer. cette métaphore de la maladie cardiaque qui touche Boris Vian depuis ses 15 ans, devient de plus en plus noire au fil des pages. Le monde de l'écume des jours est un mélange de fantaisie, de poésie, de mélancolie et d'absurde. Un monde parallèle où le langage et la musique ont le pouvoir de modifier les choses, où les animaux parlent, où les objets sont vivants, et où l'horrible côtoie le merveilleux. Les personnages ne parviennent pas à trouver leur place. L'espace où ils évoluent est trop petit ou trop grand. La chambre de Chloé rétrécit à mesure que le nénuphar se développe dans son poumon. L'écume des jours rate le prix de la Pléiade l'année de sa sortie et ne rencontre pas le succès escompté. Il n'est pas lu. Vian, dégoûté, se tourne alors vers la peinture. À la même époque, il écrit un roman noir sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, « J'irai cracher sur vos tombes ». En introduction, il se présente comme le traducteur du roman, ayant reçu le manuscrit des mains de Vernon Sullivan en personne. Le livre est cru, sombre, violent, il fait scandale. Mais c'est l'un des best-sellers de l'année 1947. Et ce succès fait souffrir Boris Vian, car « J'irai cracher sur vos tombes » n'est au fond qu'une farce, un pastiche des romans noirs américains qu'il a écrit en 15 jours, mais qui éclipse malheureusement tous ses autres romans. En 1950, deux autres livres sont publiés, « L'herbe rouge » et « Elles se rendent pas compte ». Puis en 1953 sort « L'arrache-cœur », le dernier roman de Boris Vian. Tous ces livres sont des échecs commerciaux. 1950, c'est aussi l'année du divorce pour Boris. Il se sépare de sa femme, Michel. L'amour romantique, au fil du temps, s'est transformé en une amitié compréhensive. Michel est la maîtresse de Jean-Paul Sartre. Boris, lui, papillonne de ci de là. Au fond du trou, il a renoncé à la littérature et vit difficilement de traduction. À un cocktail, cependant, chez Gaston Gallimard, Boris rencontre une jeune danseuse classique suisse de 22 ans, Ursula Kübler, qu'il épouse en 1954, après avoir longtemps refusé tout remariage. Ensemble, ils vivront des années difficiles, jalonnées de maladies pour Boris et de manque d'argent. Mais Ursula l'accompagnera jusqu'à la fin. Boris Vian trouve du réconfort dans sa carrière musicale. Passionné de jazz, il passe le plus clair de son temps dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Il y joue de la trompette. Il anime même des émissions radio dédiées au jazz. En 1951, ses problèmes cardiaques l'obligent à renoncer à la trompette, mais il continue à se passionner pour le jazz. Il écrit toute sa vie des centaines d'articles pour différentes revues qui, contrairement à son œuvre littéraire, feront toujours autorité. Boris Vian rejoint son ami Raymond Queneau au sein du collège de pataphysique. Il invente des concepts délirants comme le piano cocktail, une machine imaginaire destinée à faire des boissons tout en se laissant porter par la musique. La pataphysique est cette science loufoque initiée à la fin du XIXe siècle par Alfred Jarry, où la fantaisie et l'imagination le disputent au sérieux des sciences exactes. Boris Vian a trouvé sa deuxième famille, à la fois spirituelle, artistique et amicale. Au collège de pataphysique, il rejoint d'autres artistes, Jacques Prévert qui deviendra son ami et voisin de palier, Marx Ernst ou Eugène Ionesco et bien sûr Raymond Queneau qui en 1960, avec François Le Lyonnais, créera le fameux Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Boris Vian, encouragé par ses pairs, se lance dans des raisonnements pataphysiques savoureux, délirants, où les démonstrations mathématiques se mêlent à l'absurde. Ainsi, son mémoire concernant le calcul numérique de Dieu par des méthodes simples et fausses. En 1953, Ursula, la seconde femme de Boris, trouve un petit appartement au 6 bis Cité Véron, près de la Place Blanche, à l'arrière du Moulin Rouge. Cet appartement leur paraît très vaste comparé à l'étroite chambre de bonne qu'ils occupaient jusqu'alors, mais la taille des pièces est malgré tout réduite. Et Boris constate, après avoir créé une salle de bain, que sa baignoire n'y rentre pas. Sans se décourager, il décide alors de faire un trou dans le mur pour l'y faire passer. La dite baignoire est dès lors disposée à cheval entre deux pièces, avec une partie dans la salle de bain et l'autre dans la chambre à coucher. À la porte de cette fameuse salle de bain, celui qui se surnommait le bison a suspendu un écriteau. Il est interdit de baigner les animaux, d'utiliser les produits en dehors de ceux fournis par l'établissement, d'introduire une tierce personne sans l'autorisation du gérant et de dépasser la durée accordée au bain. Plus qu'un appartement, c'est véritablement l'atelier d'un couple d'artistes. Boris et Ursula prennent des cours de chant, car Boris s'est mis à composer des chansons. C'est le début d'une période de productivité intense. Malgré les avertissements de son médecin, le jeune auteur continue de se surmener. Il multiplie les piges, les traductions, l'écriture de chansons. Il en écrit plusieurs centaines, comme « Le déserteur », chanson pacifique en réaction contre la guerre d'Indochine, « La complainte du progrès », ou sa chanson culte intitulée « Je bois ». Il les interprète lui-même ou il les propose à des chanteurs comme Henri Salvador ou Juliette Gréco. En 1955, il chante « On n'est pas là pour se faire engueuler ».
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai...
Les activités de Boris l'épuisent et son moral est au plus bas. On pilonne ses livres qui ne se vendent pas. Alain Robbe-Grillet envisage de rééditer L'automne à Pékin et L'herbe rouge aux éditions de Minuit. Mais Boris se méfie. Depuis le temps que le sort s'acharne sur lui, il est là, fatigué de la connerie ambiante, de ce succès qui lui échappe depuis toujours, dit Robbe-Grillet. La mort de Boris Vian est à la mesure du personnage. Inattendu, insolite et ironique. Le 23 juin 1959, des amis le persuadent d'aller à 10h au cinéma Marbeuf à Paris, assister à la projection privée de l'adaptation cinématographique de son livre « J'irai cracher sur vos tombes ». Dès le générique de début, quand apparaissent les mots « d'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian », sa tête part en arrière, puis retombe en avant, il perd connaissance dans son fauteuil. Il décédera dans l'ambulance. Celui qui avait toujours dit qu'il n'aurait jamais 40 ans meurt à 39 ans. Mais comme il le disait également, la mort n'a rien de tragique. Dans 100 ans, chacun de nous n'y pensera plus.
Alors je vais vous poser une question. En 1946, Juliette Gréco, vous croisez Boris Vian. Comment ça se passe? Quelle impression vous fait-il, presque instinctivement, presque immédiatement? À quoi ressemble-t-il physiquement, au fond?
Il était d'une grande beauté. Il était d'abord d'une très grande beauté, et d'une beauté très étrange, d'une beauté archangélique. Il avait un teint tout à fait curieux, une peau extrêmement tendue, un peu avec des reflets verdâtres, comme une opaline. et des yeux extraordinairement profonds, lourds, précis. Il avait un charme fou, il était d'un autre monde.